Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Dans Lectures en liberté, nous nous retrouvons pour la suite de l'histoire d'amour entre Colin et Chloé dans « L'écume des jours » de Boris Vian. La main de Chloé, tiède et confiante, était dans la main de Colin. Elle le regardait, ses yeux clairs un peu étonnés le tenaient en repos. En bas de la plateforme, dans la chambre, il y avait des soucis qui s'amassaient, acharnés à s'étouffer les uns les autres. Chloé sentait une forme opaque dans son corps, dans son thorax, une présence opposée. Elle ne savait comment lutter, elle toussait de temps en temps pour déplacer l'adversaire accroché à sa chair profonde. Il lui paraissait qu'en respirant à fond, elle se fût livrée vive à la rage ternie de l'ennemi, à sa malignité insidieuse. Sa poitrine se soulevait à peine, et le contact des draps lisses sur ses jambes longues et nues mettait le calme dans ses mouvements. À ses côtés, Colin, le dos un peu courbé, la regardait. La nuit venait, se formait en couches concentriques autour du petit noyau lumineux de la lampe allumée au chevet du lit, prise dans le mur, enfermée par une plaque ronde de cristal dépoli. « Mets-moi de la musique, mon Colin, » dit Chloé. « Mets des airs que tu aimes. » « Ça va te fatiguer, » dit Colin. Il parlait de très loin. Il avait mauvaise mine. Son cœur tenait toute la place dans sa poitrine. Il ne se rendait compte que maintenant. « Non, je t'en prie, » dit Chloé. Colin se leva, descendit la petite échelle de chêne et chargea l'appareil automatique. Il y avait des haut-parleurs dans toutes les pièces. Il mit en marche celui de la chambre. « Qu'as-tu mis ?» demanda Chloé. Elle souriait, elle le savait bien. « Tu te rappelles ?» dit Colin. « Je me rappelle. Tu n'as pas mal ?»«
Je n'ai pas très mal. »
À l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l'obscurité, se heurtaient à la clarté et, tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argenté. Colin se redressa un peu. « Viens t'asseoir près de moi. » Colin se rapprocha d'elle. Il s'installa en travers du lit et la tête de Chloé reposait au creux de son bras gauche. La dentelle de sa chemise légère dessinait sur la peau dorée un réseau capricieux, tendrement gonflé par la naissance des seins. La main de Chloé s'accrochait à l'épaule de Colin. « Tu n'es pas fâché ?»«
Pourquoi fâché ?»«
D'avoir une femme si bête !» Il embrassa le creux de l'épaule confiante. « Tire un peu ton bras, ma Chloé, tu vas prendre froid. »«
Je n'ai pas froid, » dit Chloé. « Écoute le disque. »
Il y avait quelque chose d'éthéré, dans le jeu de Johnny Hodge. Quelque chose d'inexplicable et de parfaitement sensuel. La sensualité à l'état pur, dégagée du corps. Les coins de la chambre se modifiaient et s'arrondissaient sous l'effet de la musique. Colin et Chloé reposaient maintenant au centre d'une sphère. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Chloé. « C'était « The mood to be word », dit Colin. « C'est ce que je sentais, » dit Chloé. « Comment le docteur va-t-il pouvoir entrer dans notre chambre avec la forme qu'elle a ?» Nicolas alla ouvrir. Il y avait sur le seuil un docteur. « Je suis le docteur, » dit-il. « Bon, » dit Nicolas, « si vous voulez vous donner la peine de me suivre. » Il l'entraîna derrière lui. « Voilà, » expliqua-t-il, quand ils furent arrivés à la cuisine, « goûtez ça et dites-moi ce que vous en pensez. » C'était dans un réceptacle silico-sodo-calcique vitrifié, un breuvage de couleur particulière, tirant sur le pourpre de Cassius et le vert de Vessie, avec un léger éclat vers le bleu de chrome.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda le docteur.
« Un breuvage ?» dit Nicolas. « Mais je sais bien, mais, » dit le docteur, « à quoi destiné ?»« Un reconstituant, » dit Nicolas.
Le docteur porta le verre à son nez, flaira, s'alluma, huma et goûta, puis but, et se tint le ventre à deux mains en lâchant sa trousse à doctoriser.
« Oh, ça agit, hein ?» dit Nicolas. « Bouh ! Oui, dit le docteur, il y a de quoi crever. Vous êtes vétérinaire ?»«
Non, dit Nicolas, cuisinier. Enfin, ça agit, en somme. »« Pas mal, dit le docteur, je me sens ragaillardi. »
« Venez voir la malade, » dit Nicolas. « Maintenant, vous êtes désinfecté. »
Le docteur se mit en route, mais dans le mauvais sens. Il paraissait assez peu maître de ses mouvements.
« Eh, dit Nicolas, dites donc, vous êtes en mesure de faire vos examens, oui ?»«
Ben, dit le docteur, j'aimerais avoir l'avis d'un confrère, alors j'ai demandé à Manche-Manche de venir. »«
Bon, dit Nicolas. » « Alors venez par ici. »
Il ouvrit la porte de l'escalier de service.
« Vous descendez les trois étages et vous tournez à droite. Vous entrez et vous y êtes. »«
Bien, » dit le docteur. Il commença à descendre et s'arrêta soudain.
« Mais où suis-je ?»«
Là, » dit Nicolas.
« Ah, bien, » dit le docteur.
Nicolas referma la porte. Colin arrivait.
« Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il.
« Un docteur. » Il avait l'air idiot, alors je m'en suis débarrassé.
« Mais il en faut un, » dit Colin.
« Bien sûr, » dit Nicolas. « Manche-Manche doit venir. J'aime mieux ça, » dit Colin. Une sonnette tinta de nouveau.
« Ne bouge pas, » dit Colin, « j'y vais. »
Dans le couloir, la souris grimpa le long de la jambe et vint se percher sur l'épaule de Colin, à droite. Il se pressa et ouvrit au professeur.
« Bonjour !» dit ce dernier. Il était vêtu de noir et portait une chemise d'un jaune éclatant. « Physiologiquement, déclara-t-il, le noir sur faux jaune correspond au contraste maximum. J'ajoute que ce n'est pas fatigant pour la vue et que ça évite d'être écrasé dans la rue. »«
Certainement, » approuva Colin. Le professeur Manche-Manche pouvait avoir 40 ans. Il était de taille à les supporter. Mais pas un de plus. Il avait le visage glabre, avec une petite barbe en pointe, des lunettes inexpressives.
« Voulez-vous me suivre ?» proposa Colin. « Je ne sais pas, » répondit le professeur. « J'hésite. »
Il se décida tout de même. « Qui est malade ?»«
Chloé, » dit Colin.
« Ah !» dit le professeur. « Ça me rappelle un air. »«
Oui, » dit Colin, « c'est celui-là. »«
Bon, » conclut Manche-Manche. « Allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a ?»«
Je ne sais pas, » dit Colin.
« Moi non plus, avoua le professeur. Maintenant, je peux bien vous le dire. »«
Mais vous allez le savoir, » demanda Colin inquiet.
« Ça se peut, » dit le professeur Mangemanche, dubitatif. « Encore faut-il que je l'examinasse. » « Mais venez donc, » dit Colin. « Mais oui, » dit le professeur. Colin le conduisit jusqu'à la porte de la chambre et se rappela brusquement quelque chose. « Faites attention en entrant, » dit-il. « C'est rond. » « Oui, j'ai l'habitude, » dit Mangemanche. « Elle est enceinte. » « Mais non, » dit Colin, « vous êtes idiot, la chambre est ronde. »«
Toute ronde ?» demanda le professeur.
« Vous avez joué un disque d'Ellington, alors ?»«
Oui, » dit Colin.
« J'en ai aussi chez moi, » dit Mangemanche. « Vous connaissez Slap Happy ?»«
Je préfère... » commença Colin. Et il se rappela Chloé qui attendait et poussa le professeur dans la chambre.
« Bonjour, » dit le professeur. Il monta à l'échelle.
« Bonjour, » répondit Chloé. « Vous allez bien ?»«
Mon Dieu, » répondit le professeur, « mon foie me fait souffrir par moments. Vous savez ce que c'est ?»«
Non, » dit Chloé.
« Bien entendu, » répondit le professeur, « vous n'avez certainement pas le foie malade. »
Il s'approcha de Chloé et lui prit la main.
« Un peu chaud, hein ?»«
Je ne me rends pas compte. »«
Oui, » dit le professeur, « mais c'est un peu chaud, hein ?»«
Je ne me rends pas compte. »
« Oui, » dit le professeur, « mais c'est un tort. »
Il s'assit sur le lit.
« Je vais vous ausculter si ça ne vous ennuie pas. »«
Je vous en prie, » dit Chloé. Le professeur sortit de sa trousse un stéthoscope à amplificateur et appliqua la capsule sur le dos de Chloé.
« Comptez, » dit-il.
Chloé compta.
« Mais ça ne va pas, » dit le docteur, « après 25, c'est 27. »
Oui, dit Chloé, excusez-moi.
Ça suffit d'ailleurs, dit le docteur, vous toussez ?
Oui, dit Chloé, et elle toussa.
Qu'est-ce qu'elle a, docteur ? Demanda Colin, c'est grave.
Dit le professeur, elle a quelque chose au poumon droit, mais je ne sais pas ce que c'est.
Alors ? Demanda Colin.
« Il faudrait qu'elle vienne chez moi pour un examen plus perfectionné, » dit le professeur.
« Je n'aime pas beaucoup qu'elle se lève, »
répondit Colin. « Si elle se trouve mal, comme cet après-midi... »«
Non, » dit le professeur, « ce n'est pas grave, ça. Je vais vous donner une ordonnance, mais il faudra la suivre. »«
Bien sûr, docteur, » dit Chloé. Elle porta la main à sa bouche et se mit à tousser.
« Ne toussez pas. » dit Mangemanche. « Ne tousse pas, mon chéri, » dit Colin.
« Je ne peux pas m'empêcher, » dit Chloé, d'une voix entrecoupée.
« On entend une drôle de musique dans son poumon, » dit le professeur. Il avait l'air un peu ennuyé.
« Est-ce que c'est normal, docteur ?» demanda Colin.
« Jusqu'à un certain point, » répondit le professeur. Il tira sa petite barbe et elle revint à sa place avec un claquement sec.
« Quand devons-nous aller vous voir, docteur ?» demanda Colin.
« Dans 3 jours, » dit le professeur, « il faut que je remette mes appareils en état. »«
Vous ne vous en servez pas d'habitude ?» demanda Chloé à son tour.
« Non, » dit le professeur, « je préfère de beaucoup construire des modèles réduits d'avions. Mais on vient tout le temps me relancer. Alors je suis sur le même depuis 1 an et je ne peux pas trouver le temps de le terminer. C'est exaspérant à la fin. »«
Sans doute, » dit Colin.
« Ce sont des requins, » dit le professeur. Je me compare avec complaisance aux malheureux naufragés dont les monstres voraces guettent la somnolence pour retourner le fragile esquif.
« Oh, c'est une belle image, » dit Chloé, et elle rit doucement, pour ne pas tousser de nouveau.
C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hal puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme ac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette. Faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns. Tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après cet intermède musical, nous revenons à l'écume des jours de Boris Vian. Le vent se frayait un chemin parmi les feuilles et ressortait des arbres tout chargés d'odeurs de bourgeons et de fleurs. Les gens marchaient un peu plus haut et respiraient plus fort, car il y avait de l'air en abondance. Le soleil dépliait lentement ses rayons et les hasardait avec précaution dans des endroits qu'il ne pouvait atteindre directement, les recourbant à angles arrondis et onctueux, mais se heurtait à des choses très noires et les retirait très vite d'un mouvement nerveux et précis de poulpe dorée. Son immense carcasse brûlante se rapprocha peu à peu, puis se mit immobile à vaporiser les eaux continentales et les horloges sonnèrent trois coups. Colin lisait une histoire à Chloé. C'était une histoire d'amour, et ça finissait bien. En ce moment, l'héros et l'héroïne s'écrivaient des lettres. « Pourquoi c'est si long ?» dit Chloé. « Ça va bien plus vite d'habitude. » « Tu as l'habitude de ces choses-là, toi ?» demanda Colin. Il pinça vigoureusement l'extrémité d'un rayon de soleil qui allait atteindre l'œil de Chloé. Cela se rétracta mollement et se mit à se promener sur des meubles dans la pièce. Chloé rougit. « Non, j'ai pas l'habitude. Mais il me semble... » Colin ferma le livre. « Tu as raison, ma Chloé. » Il se leva et s'approcha du lit. « C'est l'heure de prendre une de tes pilules. » Chloé frissonna. « C'est très désagréable, » dit-elle. « Est-ce que je suis forcé ?»« Je crois, » dit Colin. « C'est ce soir que tu viens voir le docteur chez lui. On saura enfin ce que tu as. Pour l'instant, il faut prendre tes pilules. Après, il te donnera peut-être autre chose. »« C'est horrible, » dit Chloé. Il faut être raisonnable. C'est comme si deux bêtes se battaient dans ma poitrine quand j'en prends une. Et puis ce n'est pas vrai, il ne faut pas être raisonnable. Il vaut mieux pas, mais quelquefois il faut, dit Colin. Il ouvrit la petite boîte. Elles ont une sale couleur, dit Chloé, et elles sentent mauvais. Elles sont bizarres, je le reconnais, dit Colin. Mais il faut les prendre. Regarde, dit Chloé. Elles remuent toutes seules, et puis elles sont à moitié transparentes, et ça vit sûrement à l'intérieur. Sûrement, dans l'eau que tu bois après, dit Colin. Mais ça ne vit pas longtemps. C'est idiot ce que tu dis, c'est peut-être un poisson. Colin se mit à rire. Alors ça te fortifiera. Il se pencha vers elle et l'embrassa. Prends-la, Chloé. Tu seras si gentille. Je veux bien, dit Chloé, mais alors tu m'embrasseras. Sûr, dit Colin. Tu n'es pas dégoûté d'embrasser un vilain mari comme moi. Mais c'est vrai que tu n'es pas beau, dit Chloé taquine. C'est pas de ma faute. Colin baissa le nez. « Je dors pas assez, » continua-t-il. « Mon Colin, embrasse-moi, je suis très vilaine, donne-moi 2 pilules. »«
Tu es folle, » dit Colin. « Une seule, allez, avale. »
Chloé ferma les yeux, elle pâlit et porta la main à sa poitrine.
« Ça y est, » dit-elle avec effort.
« Ça va recommencer. » Des gouttelettes de sueur apparaissaient près de ses cheveux brillants. Colin s'assit à côté d'elle et mit un bras autour de son cou. Elle saisit sa main entre les siennes et gémit.
« Calme, ma Chloé.
Il faut...
« J'ai mal, » murmura Chloé.
Des larmes, grosses comme des yeux, parurent au coin de ses paupières et tracèrent des sillons froids sur ses joues rondes et douces.
« Je ne peux plus tenir debout, » dit Chloé.
Elle avait les 2 pieds par terre et tentait de se relever.
« Ça ne va pas du tout, » dit-elle. « Je suis toute flanque. »
Colin s'approcha d'elle et la souleva. Elle s'accrocha à ses épaules.
« Tiens-moi, Colin, je vais tomber. »«
C'est le lit qui t'a fatigué, » dit Colin.
« Non, » dit Chloé.
« C'est les pilules de ton vieux marchand. » Elle essaya de se tenir debout toute seule et chancela. Colin la rattrapa et elle l'entraîna dans sa chute sur le lit.
« Je suis bien comme ça, » dit Chloé. « Reste contre moi. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas couché ensemble. »
« Il ne faut pas, » dit Colin.
« Si, il faut. Embrasse-moi. Je suis ta femme, oui ou non ?»«
Oui, » dit Colin, « mais tu ne vas pas bien. »
« C'est pas de ma faute, » dit Chloé.
Et sa bouche frémit un peu comme si elle allait pleurer. Colin se pencha vers elle et l'embrassa très doucement, comme il eût embrassé une fleur.
« Encore, » dit Chloé,
« et pas seulement ma figure.
« Tu ne m'aimes plus alors ? Tu ne veux plus de femme ?»
Il la serra plus fort dans ses bras. Elle était tiède et odorante. Un flacon de parfum sortant d'une boîte capitonnée de blanc.
« Oui, » dit Chloé en s'étirant.
« Encore !»«
Ça ne va pas ?» dit Nicolas sans se retourner avant que la voiture démarre.
Chloé pleurait toujours dans la fourrure blanche et Colin avait l'air d'un homme mort.
L'odeur des trottoirs montait de plus en plus, les vapeurs d'éther remplissaient la rue.
« Va !» dit Colin.
« Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda Nicolas.
« Oh, ça ne pouvait pas être pire, » dit Colin.
Il se rendit compte de ce qu'il venait de dire et regarda Chloé. Il l'aimait tellement en ce moment qu'il se serait tué pour son imprudence.
Chloé, recroquevillée dans un coin de la voiture, mordait ses doigts. Ses cheveux lustrés lui tombaient sur la figure et elle piétinait sa toque de fourrure. Elle pleurait de toutes ses forces comme un bébé, mais sans bruit.
Pardonne-moi, ma Chloé, dit Colin, je suis un monstre.
Il se rapprocha d'elle et la prit près de lui. Il embrassait ses pauvres yeux affolés et sentait son cœur battre à coups sourds et lents dans sa poitrine.
On va te guérir, dit-il. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne pouvait rien arriver de pire que de te voir malade, quelle que soit la maladie. J'ai peur,
dit Chloé.
Il m'opérera sûrement.
Non, dit Colin, tu seras guéri avant.
Qu'est-ce qu'elle a ? Répéta Nicolas. Je peux faire quelque chose.
Lui aussi avait l'air très malheureux.
Son aplomb ordinaire s'était fortement ramolli.
Ma Chloé, dit Colin, calme-toi.
C'est sûr, dit Nicolas, elle sera guérie très vite.
Ce nénuphar, dit Colin, où a-t-elle pu attraper ça ?
Elle a un nénuphar ? Demanda Nicolas incrédule.
Dans le poumon droit, dit Colin.
Le professeur croyait au début que c'était seulement quelque chose d'animal.
Mais c'est ça, on l'a vu sur l'écran, il est déjà assez grand, mais enfin, on doit pouvoir en venir à bout.
Mais oui, dit Nicolas, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, sanglota Chloé.
Ça fait tellement mal quand il bouge.
Pleurez pas, dit Nicolas, ça ne sert à rien, vous allez vous fatiguer.
La voiture démarra.
Nicolas la menait lentement à travers les maisons compliquées. Le soleil disparaissait peu à peu derrière les arbres et le vent fraîchissait. « Le docteur veut qu'elle aille à la montagne, » dit Colin. « Il prétend que le froid tuera cette saleté. » « C'est sur la route qu'elle a attrapé ça, » dit Nicolas. « C'était plein d'un tas de dégoûtations du même genre. »
Il dit aussi qu'il faudra tout le temps mettre des fleurs autour d'elle, ajouta Colin, pour faire peur à l'autre.
Pourquoi ? Demanda Nicolas. Parce que s'il fleurit, dit Colin, il y en aura d'autres.
Mais on ne le laissera pas fleurir.
Et c'est tout comme traitement ? Demanda Nicolas.
Non, dit Colin.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Colin hésitait à répondre. Il sentait Chloé pleurer contre lui et il haïssait la torture qu'il allait devoir lui infliger.
Il ne faut pas qu'elle boive, dit-il.
Quoi ? Demanda Nicolas. Rien ?
Non, dit Colin.
Pas rien du tout, tout de même.
2 cuillerées par jour, murmura Colin.
2 cuillerées ? Dit Nicolas.
Il n'ajouta rien. Et fixa la route droit devant lui.
Alice sonna 2 coups et attendit. La porte d'entrée lui paraissait plus étroite que d'habitude. Le tapis semblait terne et aminci. Nicolas vint ouvrir. « Bonjour, dit-il, tu viens les voir ?»«
Oui, dit Alice. Ils sont là ?»«
Oui, dit Nicolas. Viens, Chloé est là. »
Il referma la porte.
Alice examinait le tapis. « Il fait moins clair qu'avant ici, dit-elle. À quoi cela tient-il »«
Je ne sais pas, » dit Nicolas.
« C'est drôle, » dit Alice. « Il n'y avait pas un tableau ici ?»«
Je ne me rappelle plus, » dit Nicolas. Il passa une main hésitante dans ses cheveux.
« De fait, » dit-il, « on a l'impression que l'atmosphère n'est plus la même. »«
Oui, » dit Alice, « c'est ça. »
Elle avait un tailleur brun, bien coupé, et un gros bouquet de narcisses à la main. « Toi, dit Nicolas, tu es en forme, ça va ?»«
Oui, dit Alice, ça va, Chic m'a offert un tailleur, tu vois, il te va bien. »«
J'ai de la chance, dit Alice, que la duchesse de Beauvoir ait juste les mêmes mesures que moi, il est d'occasion. Chic voulait un papier qu'il y avait dans une de ses poches, alors il l'a acheté. »
Elle regarda Nicolas et ajouta, « Tu ne vas pas bien ?»
« Ah, dit Nicolas, je ne sais pas, j'ai l'impression que je vieillis. »«
Montre ton passeport, » dit Alice. Il fouilla dans sa poche revolver.
« Voilà, » dit-il.
Alice ouvrit le passeport et pâlit.
« Quel âge avais-tu » demanda-t-elle à voix haute.
« 29 ans, » dit Nicolas.
« Regarde. » Il compta. « Cela faisait 35. Je ne comprends pas, » dit-il.
« Ça doit être une erreur, » dit Alice. « Tu ne parais pas plus de 29 ans. »«
J'avais l'air d'en avoir 21, » dit Nicolas.
« Ça s'arrangera sûrement, » dit Alice.
« J'aime tes cheveux, » dit Nicolas. « Viens, viens voir Chloé. »«
Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Alice, pensive.
« Oh, » dit Nicolas, « c'est une maladie. Ça nous bouleverse tous. Ça s'arrangera et je rajeunirai. »
La suite de cette belle histoire d'amour entre Colin et Chloé n'est pas terminée. Et nous la retrouverons la semaine prochaine dans l'écume des jours de Boris Vian. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pourrez retrouver les podcasts de ces émissions sur le site de Bretagne 5. Bonne soirée, à la semaine prochaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.